Fatalitas, chapitre 31, où Chiribibi produit son petit essai. Ce jour-là, il y avait grand émoi au palais de justice. L'audience qui se préparait promettait d'être l'une des plus sensationnelles du procès d'Aumont. Les mieux renseignés prétendaient même qu'elle serait décisive, car le bruit courait que des éléments nouveaux allaient apporter une lumière complète sur toute l'affaire. C'est dire que bien avant l'heure de l'ouverture des portes, la salle d'audience était assiégée par un public de plus en plus impatient. Un événement imprévu vint porter à son comble l'énervement général. On vit passer soudain dans un coin du palais, poussé hâtivement vers le couloir qui conduisait aux salles réservées aux témoins, un couple fortement encadré de policiers. Et dans ce couple, on reconnut le comte de Gorbio et Nina Noah. Nina Noah était donc arrêtée, elle aussi. La nouvelle n'en était pas encore parvenue en province. Elle se propagea au palais et en ville avec une rapidité foudroyante. Du coup, comme il était certain que le comte et son ancienne maîtresse, qui avait été aussi l'amie du jeune Raoul de Saint-Dalmas, allait déposer à cette audience, ce fut une ruée vers la cour d'assises. Le service d'ordre fut débordé et le public se précipita dans la salle en criant et en s'écrasant. Quand le président connut ce qui se passait, il demanda à la place du renfort et n'ouvrit les débats qu'après avoir admonesté le public et l'avoir menacé d'une expulsion immédiate à la moindre manifestation. On connaissait l'antienne. Elle n'épouvantait plus personne. Du reste, on était si curieux de voir et d'entendre que c'est dans le silence le plus parfait qu'on l'entendit commander à l'huissier « Faites entrer Madame d'Aumont ». C'était le tour des témoins à décharge. Il était temps qu'ils arrivassent. Les deux dernières audiences avaient été désastreuses pour l'accusé. En particulier, la déposition de l'ami de Madame d'Erlan avait produit un effet déplorable. Cette excellente personne avait raconté avec candeur tout ce qu'elle avait vu et tout ce qu'elle savait des relations de Monsieur d'Aumont avec le petit mannequin des sœurs Violette. Et elle en savait long. Par exemple, sur les stations de Monsieur d'Aumont dans la rue. Des heures, messieurs, il attendait cette petite sur le trottoir. Et rien ne l'empêchait de voir Gisèle à son magasin, ou même chez Madame Antenay. Concluez. Et elle en avait vu assez pour savoir à quoi s'en tenir sur la nature de ces relations-là. Chez la bonne Madame d'Aumont même, qui en souffrait atrocement, mais qui ne disait rien pour éviter le scandale, la pauvre martyre. Dans les jardins de la Villa Thalassa, le témoin avait vu, de ses yeux vu, les deux amoureux se promenant la main dans la main, échangeant des baisers, et s'écartant l'un de l'autre dès qu'un domestique passait. Cette fâcheuse déposition avait été suivie de celle de Mademoiselle Violette, aînée, qui avait été encore plus néfaste à l'accuser, si possible. Et pourtant, elle ne doutait point, elle, de l'innocence des rapports de M. d'Aumont et de son employé. Mais tout ce qu'elle en rapportait ne faisait qu'accroître la certitude de ceux qui soutenaient la thèse opposée. Mademoiselle Violette avait été bien naïve de s'en faire accroire ainsi. Enfin, rien jusqu'alors ne venait démontrer que Madame Antenay n'était point la vraie mère de Gisèle, quoi qu'en prétendît d'Aumont. Pour cela, il aurait fallu que l'accusé produisît les papiers trouvés par Gisèle la nuit de la mort de Madame Antenay. Or, Gisèle les avait brûlés sur les conseils de d'Aumont. Quelles histoires! Personne n'y croyait plus. Voilà donc où en étaient les affaires de palace quand Françoise parut à la barre. Un murmure de pitié l'y accompagna. Elle comprit de quelle sorte d'intérêt elle était entourée, et tout de suite, dès qu'on lui eut donné la parole, elle s'éleva avec indignation contre ce sentiment général qui l'offensait. « On me fait l'injure de me plaindre comme une victime qui a été odieusement trompée par le plus lâche des hommes. Je proclame très haut que quels que soient les événements passagers qui vous aveuglent, je ne mérite la plainte de personne, puisque j'ai l'orgueil d'être la femme d'un héros et d'un martyr. » Cette jeune femme, qui était apparue si fragile, se dressait maintenant au-dessus de la salle, et l'avait tout entière dans sa petite main, cette main qu'elle tendait avec tant d'amour vers Pallas. Déjà, tous les cœurs étaient frémissants, brûlés par la flamme d'une parole sincère. On ne doutait plus d'elle, au moins. Non, Françoise ne jouait pas une comédie sublime. Elle croyait. Et elle continuait en montrant son mari, qui, dans l'instant, bénissait le ciel de tous ses malheurs, qui lui étaient payés par cette minute divine. Elle continuait. « Oui, un martyr. D'abord, injustement condamné pour l'assassinat du banquier Reynaud. » À cette affirmation audacieuse, qui se dressait outrageusement contre tout l'appareil judiciaire, l'avocat général Martins se leva et parut devoir briser d'un coup l'élan d'un témoignage qui avait toute la couleur d'une admirable défense purement sentimentale. Par ces mots ironiques, destinés à ramener les esprits au terre-à-terre des responsabilités établies. « Madame Daumont, » fit-il, « Madame Daumont pourrait peut-être nous dire qui a assassiné le banquier Reynaud. » La pauvre femme resta toute interloquée. Elle allait cependant répondre quelque chose, mais elle n'en eut pas le temps. Quelqu'un au fond de la salle répondit pour elle. « Je le sais, moi, qui a assassiné le banquier Reynaud. » Toutes les têtes se tournèrent vers celui qui avait prononcé cette parole énorme. Le président ordonna qu'on l'amenât à la barre. En quelques enjambées qui avaient tout bousculé autour de lui, il y était déjà. Et l'on se demandait qui pouvait être ce colosse, à la figure à la fois farouche et débonnaire, quand il prit sur lui de renseigner immédiatement tout le monde. « C'est moi, Chéri-Bibi. » Ce fut une rumeur, comme un bruit d'épouvante qui répéta à tous les échos de la salle « Chéri-Bibi, Chéri-Bibi, c'est Chéri-Bibi !» Les magistrats eux-mêmes ne disaient plus rien. Ils le regardaient. Ils voyaient Chéri-Bibi. « Eh bien oui, quoi, c'est moi, Chéri-Bibi, pour la quatrième fois en rupture de banc. Appelez donc les gendarmes, nom de... » De fait, les gendarmes, il les eut. Ils voulurent même lui mettre les menottes. « Non, » fit-il. « Maintenant, mes enfants, vous allez trop vite. Attendez que j'ai déposé, au moins. » Et tournez vers le président. « Mon président, j'ai des choses de la dernière importance à vous communiquer, mais je désirerais parler devant deux témoins que j'ai croisés tout à l'heure dans le corridor. Vous saurez toute la vérité quand le comte de Gorbio et sa Nina Noah seront ici. » Tout cela était tellement imprévu que c'était Chéri-Bibi qui semblait maintenant diriger les débats. Le président fit un signe, on introduit Gorbio et Nina. Tout le monde était debout dans l'attente d'une scène prodigieuse. On entendait les cris de ceux qui, derrière, à moitié étouffés, ne voyaient rien. « Assis ! Assis !» Et la voix du président « Vais faire évacuer la salle !» Gorbio et Nina se trouvaient maintenant dans le prétoire, et regardait Chéri-Bibi sans comprendre. Enfin, la chose éclata. L'assassin du banquier Reynaud, le voilà, s'écriait Chéri-Bibi en désignant Gorbio. Et voici sa complice, ajouta-t-il en montrant Nina. Le comte et sa maîtresse s'étaient soulevés au milieu d'une agitation formidable. Ils protestaient, ils criaient, ils accablaient le témoin d'outrage. Le président renonçait à se faire entendre. Il allait se lever quand Chéri-Bibi le retint d'un signe. Chéri-Bibi sortait de ses poches le collier et les papiers. Il les glissa rapidement sous le nez de Gorbio et de Nina et les mit dans la main de l'huissier qui les déposa devant le président. « J'apporte mes preuves, » fit-il. « Signez des coupables. » Cette fois, on ne pouvait plus douter. Et il n'y avait du reste qu'à considérer un instant l'effondrement de Gorbio et de la danseuse pour savoir à quoi s'en tenir. Il y eut dans la salle un tel mouvement spontané de fureur contre les deux misérables que l'on put croire que la vague qui déferlait contre eux allait tout engloutir. Heureusement, Chéri Bibi était là. Il n'eut qu'à se retourner et à lever ses poings formidables pour que le flot reculât, épouvanté. « Vous n'allez peut-être pas les tuer avant qu'on les juge. Et maintenant, monsieur le président, que vous avez la vérité sur l'affaire Reynaud, vous pouvez le croire quand il vous dit que Gisèle est sa fille. En ce qui me concerne, je n'ai plus rien à faire ici. Gendarme, faites votre devoir, les menottes, et qu'on me ramène au bagne. Et au trot, SVP. V'là trop longtemps que je suis privé de la chiourme. Loin du pré, moi, je m'ennuie. » Mais avant que les menottes ne vinssent en serrer les poignets du bandit, une petite main s'était glissée entre les siennes. C'était celle de Françoise. Pallas, à son banc, sanglotait. « Adieu, Pallas !» jeta Chéri Bibi avec un rauque sanglot qui lui déchirait la gorge. « Adieu, mon poteau! Tu sais, si t'as besoin de moi, fais-moi signe, je t'entendrai de là-bas. » Pallas s'était soulevé et lui tendait les mains. Aucune force ne put arrêter le bandit. Les deux hommes s'étreignirent dans le silence solennel et angoissé de tous. Seule la voix de Monsieur Martin s'éleva. « Ah, on s'entend bien au bagne !» Mais Françoise lui répliqua, au milieu d'applaudissements qui firent crouler la salle, « Au bagne, où vous avez envoyé mon mari 10 ans pour un crime qu'il n'a pas commis. Il n'y a qu'un homme qui a cru à son innocence, et cet homme, c'est Chéri Bibi. Permettez à mon mari de lui dire au moins merci. » « Ça, elle est chouette, la petite dame !» fit une voix au fond de la salle. Et c'était Zoé, qui, fort émue des embrassements de Chéri Bibi et de Pallas, s'était jetée sur l'épaule de Yo-Yo. La ficelle voulut la prendre pour la mettre sur la sienne. Yo-Yo le fixa avec son regard peau rouge. La ficelle n'insista pas. « Tu comprends ?» lui dit Yo-Yo. « Je l'emmène. Nous suivons Chéri Bibi là-bas. Rien ne t'empêche de nous accompagner avec ta Virginie. »« Je suis trop vieux !» soupira la ficelle. « Envoie-moi des pruneaux !» fit entendre la voix de Chéri Bibi qui passait entre ses gardiens. « Fatalitas, v'là encore monsieur le marquis bouclé !» Chapitre 32. Madame Martins. L'événement était formidable, mais il faudrait peu connaître l'état d'esprit d'un magistrat comme l'avocat général Martins, c'est-à-dire d'un homme qui n'obéit qu'à sa conscience et qui a toujours ignoré les mouvements du cœur. Pour imaginer que la preuve que l'on venait d'apporter de la culpabilité de Gorbiot dans une affaire du reste que l'on n'avait pas à juger, put, une seconde, ébranler sa conviction en ce qui concernait le procès actuel. Et il ne fut pas long à ramener les débats sur leur véritable terrain, le double assassinat de l'auberge des Pins. Enfin, pour combattre dans l'esprit des jurés l'impression produite par les incidents précédents, il n'hésita pas à leur faire part d'une hypothèse qu'il considérait déjà, quant à lui, comme une certitude. Depuis longtemps, Gorbiot et l'accusé avaient parti liés. Gorbiot, Saint-Dalmas, Nina Noah, tout cela formait un bloc que l'on trouvait à l'origine de l'affaire Reynaud. Si Gorbiot avait été le principal coupable, comme les documents nouveaux semblaient l'attester, Saint-Dalmas avait pu être son complice. Or, comme M. Martins venait de prononcer ces paroles funestes, Gorbiot n'eut garde de laisser passer à côté de lui une aussi belle planche de salut sans s'y jeter. Le misérable se leva et commença à déclarer qu'en effet, il n'avait dans cette première affaire qu'était l'instrument de Saint-Dalmas qui lui avait indiqué le coup. Le malheur pour Gorbiot, et nous pouvons bien dire aussi pour M. Martins, fut que ses explications ne convainquirent personne. Bien au contraire. Une rumeur de mauvais augure accueillit le mensonge évident qui sortait des lèvres pâles de Gorbiot. « Quant à Pallas, il était encore si enivré d'un événement qui le libérait aux yeux de tous de son infamie passée qu'il ne comprit point tout d'abord ce qui se manigançait contre lui. Soudain, il entend « Gorbio, ose !» Alors il se lève. Cette fois, il tremble d'une fureur sainte. Si jusque-là il est resté maître de lui, maintenant il ne retient plus sa colère, et il écrase Gorbio d'une protestation si éclatante et si éloquente que la salle en est soulevée. Public, juré, magistrat. De tels bravos éclatent au fond de la salle que le président n'essaie point de les arrêter. Du reste, à la façon nouvelle dont le président interroge l'accusé, on sent qu'il y a quelque chose de nouveau dans le cœur de tous, excepté chez M. Martins, l'espoir que Pallas est innocent de tout. « Vous continuez de prétendre, dit le président à l'accusé, que Gisèle est votre fille. « Oui, monsieur le président. Et Gisèle sait que vous êtes son père. » Alors, nouveau coup de théâtre. Le président annonce que, usant de son pouvoir discrétionnaire, il va donner l'ordre d'introduire Gisèle, dont la santé est meilleure, et qui sera entendue à titre de simple renseignement. M. Martins, étonné, se retourne vers le président et lui demande, pendant que toute la salle, dans une nouvelle rumeur, attend impatiemment l'entrée de Gisèle. « Comment avez-vous su qu'elle allait mieux ? Et qui vous l'a amenée ?» À quoi le président répond d'un geste en montrant derrière lui, au premier rang des privilégiés qui assistaient au débat sur l'estrade de la cour, une femme. Et cette femme, c'est Madame Martins. L'avocat général n'eut même pas le temps de s'apesantir sur cette incroyable, sur cette inexplicable attitude de sa femme. Gisèle entrait. Elle était accompagnée par deux femmes de la maison de santé. L'une d'elles la soutenait. La pauvre enfant paraissait inquiète, craintive, en dépit des paroles d'encouragement qui lui étaient prodiguées. Soudain, elle aperçut Françoise et rien ne la retint plus. Elle alla se jeter dans ses bras en pleurant. Ce fut Françoise qui la soutint à la barre et lui dit de bien écouter ce que lui disait le président. Jusqu'alors, elle n'avait pas encore aperçu Pallas, qui, retombé sur la barre, n'avait plus la force de pleurer. Mais voilà que le président lui dit, en montrant l'accusé, « Pourriez-vous me dire, mon enfant, qui est cet homme ?» Gisèle se retourna et vit cet homme entre les gendarmes. Elle tressaillit de la tête aux pieds. Ses yeux s'agrandirent. Visiblement, elle faisait un effort pour comprendre. Et peut-être comprenait-elle. Elle répondit, « C'est Monsieur Daumont. » Le président continua, « Est-ce votre père ?» Et toute la salle était comme suspendue aux lèvres de la jeune fille. Pallas, comprenant que son sort dépendait des mots qui allaient être prononcés, s'était levé. Il était penché sur la réponse de Gisèle. Et Gisèle dit, « Je n'ai jamais connu mon père. » La malheureuse, dans sa demi-folie, ou tout au moins dans son esprit troublé, s'était dit « On sait sans doute que mon père était forçat. Si je dis que M. Daumont est mon père, c'est moi qui le dénoncerai à la justice. » Ou quelque chose d'approchant. Enfin, elle avait voulu sauver son père. Elle le perdait. Il y eut un immense soupir de désappointement. Derrière le président, on entendit une sourde exclamation et comme un sanglot. C'est en vain que Pallas, montrant Gisèle, s'écriait « Mais vous voyez bien que sa pauvre mémoire... »« Assez. On a assez torturé cet enfant. » interrompit l'avocat général, triomphant. « La cause est jugée. »« Pardon, monsieur l'avocat général, » répliqua aussitôt et fort calmement le président. « Elle sera jugée lorsque je le déciderai. » Et se tournant vers Pallas, « Si Gisèle est votre fille, vous pouvez nous dire au moins où elle est née ?» Pallas avait retrouvé tout son calme. Droit, les bras croisés, il semblait fixer le président. En réalité, il regardait une autre personne derrière le président. une autre personne qui souffrait peut-être plus que lui. « Non, monsieur le président, je ne peux pas vous le dire, car ce serait vous dire qui est sa mère. »
« Et vous ne voulez pas nous dire qui est sa mère ?»«
Non, monsieur le président. » Sur quoi l'avocat général, railleur, fit à Palace.
« Sans doute une question d'honneur. »
« Oui, monsieur l'avocat général, une question d'honneur. » « Alors, monsieur Martins,
ça, c'est l'alibi de tous les bandits qui ne peuvent donner l'emploi de leur temps après l'assassinat. »
Palace, qui le brûle de son regard, « Finissons-en donc et condamnez-moi. » Le président se lève en déclarant l'audience suspendue. On a emmené Gisèle quasi évanouie dans une petite salle adjacente. Et maintenant, l'avocat général, seul dans son cabinet, semble savourer sa victoire prochaine. Il va la remporter contre tout le monde, contre le président lui-même, qui, un instant, a penché pour Palace, enfin, contre sa femme. Sa femme, justement, la voici. Elle referme la porte du cabinet d'une main défaillante, et elle n'a plus la force de faire un pas. Elle s'appuie contre cette porte pour ne pas tomber. Elle a une figure de morte. Monsieur Martins met toute cette terreur sur la crainte qu'il inspire. Cette femme a commis la faute de s'occuper des affaires de justice. Elle a poussé l'audace jusqu'à prendre une initiative qu'il lui reproche comme un crime. « De quel droit êtes-vous allé chercher Gisèle ? Me le direz-vous ? » Et tout à coup, elle le lui dit. « La mère de Gisèle, c'est moi !» Que se passa-t-il ensuite entre ces deux êtres? Peut-être une scène formidable, peut-être le silence. Toujours est-il que ceux qui virent se rouvrir la porte du cabinet de l'avocat général virent sortir deux spectres. À la reprise de l'audience, l'un de ces spectres se levait. Il était habillé d'une robe aux parements rouges. L'accusé avait raison, déclara M. Martins d'une voix qu'on ne lui connaissait pas. Il est le père de Gisèle. C'est la mère de Gisèle qui va venir elle-même à cette barre pour confesser sa faute. Que dis-je, sa faute, son crime? Que de mouvements, que d'exclamations. Qui donc est cette femme? Quel est ce témoin nouveau qui s'avance? Des cris. Un nom répété par toutes les bouches. Le second spectre est apparu. C'est Madame Martins.
C'est la femme de l'avocat général.
Elle va tomber. L'huissier se précipite, la soutient jusqu'à la barre.
Jurez de dire toute la vérité,
lui dit le président dont la voix tremble d'émotion. Elle lève la main, une main si pâle qu'elle semble appartenir déjà au tombeau.
Je le jure. Monsieur Daumont, eh bien, le père de...
Et puis elle s'effondre. Cette femme est peut-être morte, mais Palace est sauvé. L'avocat général s'écrie d'une voix rauque. J'abandonne l'accusation. Au nom de la justice, je demande à messieurs les jurés d'acquitter cet homme. Et je requiers la cour de prononcer sa libération provisoire, en attendant la révision de son premier procès. Quant à moi, je n'ai plus le droit d'occuper cette place. » Et il s'en va en chancelant. C'est la fin d'une honnête carrière. Comment essayer de rendre l'émotion, l'enthousiasme avec lesquels furent accueillis l'acquittement et la libération de Palace? On fit à M. Daumont et à Françoise, qui avaient placé la petite Gisèle au milieu d'eux, un cortège triomphal jusque sur les marches du palais de justice. Devant eux se levait le matin, un matin radieux. Les débats s'étaient prolongés jusqu'à l'aurore, la véritable aurore nouvelle.